L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. On ne change pas une équipe qui gagne, l'équipe des naturalistes, en l'occurrence Bretagne Vivante. Et cette année, donc, on va vraiment se pencher bien bas, ou parfois on prendra même une loupe. On n'aura pas forcément besoin de tendre l'oreille, car certaines de ces créatures sont très sonores. Mais écoutez quand même. Là, c'est le criquet marginé. Là, le grillon des marais. Le grillon champêtre. Et finalement, la grande sauterelle verte qu'on n'entend pas très bien. Hein. Ouais. Alors, bah oui, cette année, Bretagne Vivante nous intéresse entre autres aux insectes et ce sera la mission de Stéphane Visa qui est là, qui nous parlera aussi des papillons de jour, des sirfs et peut-être des carabes. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Donc là, on a entendu en fait un petit florilège, mais c'était pas si évident que ça finalement de les entendre. Hein. On a pu juste voir que c'était un peu différent en fait, hein, les stridulations des uns et des autres.
Oui. Personnellement, je les entends pas moi, parce que mes oreilles me permettent pas de les entendre, c'est trop aigu, à part le grillon champêtre, sinon les autres, je les entends pas sur le terrain. Donc, mais quand on les entend, c'est vrai que c'est un moyen de les reconnaître de façon complètement efficace, parce que chaque espèce a son chant. Et sa fréquence et sa tonalité.
Et ça, on va en parler tout à l'heure de la fonction de ce chant, bien sûr. Alors, on les a mis ensemble, donc les criquets, les grillons, les sauterelles, car ce sont des orthoptères, c'est ça ?
C'est ça, orthoptères. Orthoptères, c'est un ordre d'insectes qui sont caractérisés par leurs ailes droites. C'est ça que veut dire ce mot, hein, c'est issu du grec.
Donc c'est pas droite et gauche, mais droite, elles sont droites,
voilà,
les ailes, d'accord.
Voilà, c'est ça, ortho, droit. Elles sont pliées dans le sens de la longueur, en fait, et orienté dans le sens du corps.
Sur le dos,
sur le dos, voilà, il y a quatre ailes en fait qui sont attachées au thorax. Ça, c'est un peu le schéma de base d'un insecte.
Et alors les libellules, est-ce que c'est des orthoptères?
Bah non, parce que les ailes sont en toit ou ouvertes quand elles sont posées. Elles ne sont pas
c'est les
pliées dans le sens
alors,
de la longueur.
C'est les demoiselles qui ont des ailes pliées derrière elles, c'est ça ?
Oui. Mais ça, c'est un autre sujet.
D'accord, ok. Bon, je suis en train d'embrouiller tout le monde.
Oui. Non, donc les orthoptères, c'est comme tu l'as dit, les criquets, les sauterelles, les grillons et la courtilière.
Qu'est-ce que c'est une courtilière ?
Qu'on oublie régulièrement. Alors, la courtilière, c'est un orthoptère proche des grillons dans le sens taxonomique et qui est caractérisé par sa grande taille, ça fait 5 cm de long, ses mœurs souterraines, voilà.
C'est pour ça qu'on la connaît pas.
C'est pour ça qu'on la connaît pas et aussi elle a des antennes assez courtes et puis le thorax est recouvert d'une pièce en forme de bouclier, voilà, qu'on la reconnaît assez facilement comme ça. Et surtout, le critère définitif et qui la rend inconfondable, ce sont ses pattes avant qui sont fouisseuses, voilà. Donc elle a les pattes avant d'une taupe, quoi. Voilà, ça lui permet comme ça de creuser des galeries. Son ancien nom en français ou un autre nom en français, c'est la taupe grillon ou grillon taupe, grillo talpa en latin.
En effet, voilà. D'accord.
Et alors c'était.
Mais elle a des sortes de griffes, quoi. Enfin, des griffes pour un insecte, ça paraît bizarre, quoi. Des pelles, des petites pelles.
Ouais, c'est ça. C'est plutôt des pelles griffues. Voilà, on peut aller comme ça, et qui permettent de creuser des galeries. Alors c'est particulièrement efficace. Et c'était une espèce qu'il y avait dans tous les jardins avant l'arrivée des biocides et autres joyeusetés, et qui a quasiment disparu des jardins et qui se maintient maintenant en Bretagne dans des prairies humides ou des marais arrière littoraux, quoi, toujours un peu en contexte humide.
Et comment est-ce qu'on peut reconnaître une galerie de courtilière? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
La courtilière, la meilleure façon de la repérer, de la détecter, c'est aussi le chant, sa stridulation qui est très particulière, qui ressemble au chant de l'engoulevent, qui est un oiseau, je sais pas si ça vous parle. Voilà, je vais pas l'imiter.
Bah, mais c'est très... Fernand de Roussin qui a capturé les sons qu'on a écoutés, hein. C'est un naturaliste audio oui. très connu, enfin, qui travaille pour le Muséum d'Histoire Naturelle.
Oui, oui, oui.
Donc peut-être qu'il a une courtilière, je la rajouterai sur le site internet.
Oui, c'est fort possible qu'il ait ça dans sa... dans sa sonothèque, oui. Et donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui, et oui. Puis ben des fois elle se déplace en fait, hein, soit pour surtout pour des raisons de rencontres nuptiales, et oui, du coup on peut la croiser en général quand on est dans une prairie, on fait un pique-nique, on piétine un peu, s'il y en a, elles peuvent ressortir à ce moment-là, quoi. Et quand on la voit, c'est inconfondable, en fait.
Ah bon, d'accord, très bien. Alors j'ai dit que ces animaux sautaient, mais en fait ils sautent peut-être pas tous, hein. Enfin, moi je pensais à la sauterelle, bien sûr, mais
oui, si, majoritairement on peut dire ça. Et puis après, selon qu'ils ont des ailes ou pas, ils volettent, ils planent, ouais, ou ils volent même activement, quoi. Ça dépend des espèces.
Ah oui, alors il y en a qui ont des ailes et pas. Alors on va peut-être entrer dans, justement, comment est-ce qu'on les distingue?
Oui.
Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, parfois on confond surtout les grillons et les criquets, j'ai l'impression.
Oui.
Donc comment on les distingue?
Bah, alors en fait, une fois qu'on a mis de côté la courtilière, donc il y a une espèce en Bretagne, on peut ensuite mettre de côté les criquets, qui peuvent se reconnaître par rapport aux grillons et aux sauterelles. Les criquets, ils ont les antennes plus courtes que le corps.
Ah.
Voilà.
Ouais.
Et donc ça, c'est très efficace, ça se voit très très bien. Et donc ils appartiennent à un sous-ordre, là, dans l'ordre des orthoptères. Et en Bretagne, on en a 36 espèces.
Voilà. Ah ouais ?
Oui. Et après, il nous reste les grillons et les sauterelles. Alors là, il y a des critères, les antennes sont plus longues que le corps. Voilà. Et puis les femelles. Que ça soit chez les grillons ou les sauterelles, ont ce qu'on appelle un oviscapte, c'est-à-dire c'est un tube de ponte. C'est un long, ça ressemble à une épée ou à un sabre, et ça leur permet d'enfoncer leur tube de ponte soit dans le sol, soit dans les tiges de plantes pour pondre leurs œufs.
Ah oui, dans les tiges de plantes.
Oui.
Ah,
alors, oui. Tandis que les criquets n'ont pas de tube de ponte apparent, les femelles criquets.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Et d'un point de vue sonore, ce qu'on entend quand les beaux jours reviennent en Bretagne, c'est quoi? C'est les...
Alors quand c'est puissant,
ouais.
Moi ce que
oui,
j'entends,
voilà, quand c'est puissant, ouais.
Moi
ouais.
Ce que j'entends, ce sont les grillons champêtres.
D'accord.
Voilà, c'est okay. le chant que tu as montré,
oui,
en préambule. Voilà. Ouais. Et puis les autres après. Ça dépend des oreilles, quoi.
C'est ça, faut être près du sol, quoi.
Ouais. oui, puis être capable d'entendre des fréquences aiguës, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui est commun aux orthoptères, cette stridulation. Alors, est-ce que c'est les femelles et les mâles? Est-ce que c'est que les mâles aussi?
Alors, c'est les mâles qui ont les chants les plus développés. Tous les chants que tu as fait écouter sont des chants de mâles. Par contre, les femelles ont aussi quelques petits chants, mais qui sont plus rudimentaires. Et qui en général sont des petits signaux d'acceptation, d'accouplement ou des choses comme ça.
Et comment est-ce qu'ils font? Comment ils se produisent?
J'ai pas donné la différence entre grillon et sauterelle.
Ouais,
je peux
sûr.
Revenir là-dessus.
Bah ouais, bien
quand
sûr.
Même. Bah oui, parce qu'en fait, alors après, pour reconnaître grillon et sauterelle, il y a des. Si c'est vert, c'est forcément une sauterelle.
D'accord.
Les grillons sont jamais verts.
Ça, c'est simple.
Voilà. Mais il y a des sauterelles marron.
Ah, zut.
Voilà. Et puis, donc après, là, on peut regarder juste la forme globale de la bestiole. Les grillons ont une forme plus ronde, avec une tête globuleuse, un abdomen bien cylindrique, etc. Et ça permet comme ça assez facilement de faire la différence avec les sauterelles.
D'accord. David Andrasik est là aussi, il avait une question à poser.
Oui, pour en revenir sur le chant.
Oui.
Ils chantent tous au même moment ou il y a plutôt des chants qui se font le matin, l'après-midi, le soir, qui pourraient permettre justement de les identifier?
On peut pas identifier les espèces parce qu'elles chantent plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Ah ouais. Ça marche pas sur le terrain. Par contre, on sait que le Grillon d'Italie, par exemple, il va chanter plus tard en soirée, et des espèces vont pouvoir chanter alors qu'il y a encore un peu de nuages, alors que d'autres attendent vraiment qu'il y ait le plein soleil pour y aller. Ça dépend vraiment de l'écologie des différentes espèces.
Et ils chantent pourquoi ?
Alors, c'est nuptial. Le chant, la stridulation qui est le mot plus juste, c'est nuptial. Ça sert aussi à délimiter un territoire, ça sert aussi à chasser ou des rivaux, mais ça reste quand même globalement nuptial.
Et voilà. Donc comment c'était quoi en frottant les pattes, non ? Enfin, ils ont pas de cordes
vocales. Oui, alors les sauterelles et les grillons. En fait, en gros, la stridulation, c'est un frottement. En fait, c'est l'équivalent d'un archer contre une arête, quoi. Contre une, voilà, ils ont pas de corde, ils ont mis une arête. Alors saillante. Donc, ça se passe au niveau des élytres, c'est-à-dire la première paire d'ailes qui est un peu coriacée. Chez les sauterelles et chez les grillons, c'est le frottement de l'un sur l'autre qui produit le son, parce qu'y en a un qui a une petite griffe et l'autre qui a une arête saillante, quoi. Et c'est le frottement des deux qui fait ça. Et puis sur les litres, justement, là, qui s'appelle Techbench, chez ces bêtes là enfin bon, voilà, chez cette aile là il y a aussi une zone membraneuse qui fait caisse de résonance. Voilà,
c'est ce que j'avais demandé. Il faut une caisse de résonance, parce que sinon on entendrait
mais c'est sur les litres, et une élite de grillons, c'est vraiment tout petit, quoi.
Comme quoi,
voilà. Et tandis que chez les criquet, c'est différent. L'arête saillante, elle est toujours sur le tegmen, mais l'archer, je veux dire, il est sur le fémur, en fait. Et c'est le fémur, c'est ce qui est gros à l'arrière et qui permet le saut. Et voilà. Et c'est le frottement des épines de ce fémur sur le tegmen qui produisent le son.
Ouais.
Il y a des exceptions. Ouais. Voilà, il y a un criquet qui fait ça avec le tibia, on va pas rentrer dans ces détails-là. Et il y a aussi une espèce, alors, qui est assez originale, qui s'appelle le méconème, et qui vit dans les arbres, le méconème tambourinaire, et qui lui tambourine, comme son nom l'indique. Alors c'est un tambourin qui est assez pas très ténu. Volumineux. Ouais, voilà, ténu, parce que il faut, bon, apparemment les bonnes oreilles l'entendent à un mètre de distance. Wow. Mais bon, ouais. Là, faut, je pense qu'il faut, parce qu'en fait il tape juste avec sa patte sur la feuille.
Uh-huh.
et c'est le bruit de ce c'est le bruit issu du contact de la patte avec la feuille qui produit la stridulation.
Bon, on a commencé. Voilà. Ouais. Ok. Bon, on pourrait faire toute l'émission finalement sur les sons des criquets, des grillons, des sauterelles.
Il y a 66 espèces en tout. Moi, je l'ai pas dit ça, d'accord, mais il y a quand même un peu de monde quand même.
Oui. Voilà. Et donc, est-ce qu'ils ont alors leur mode de vie? On l'a un petit peu. On a commencé à l'aborder, mais finalement, j'imagine qu'ils ont des modes de vie assez différents. Enfin, où est-ce qu'ils vivent? Quels sont les habitats déjà?
Oui. Alors après, il y a tout le temps des cas particuliers, etc. Mais on peut quand même tirer. Un cas général. Bon, déjà, le cas général, c'est une génération par an. Voilà, et ce sont les œufs qui passent l'hiver, soit dans le sol, soit dans les tiges des plantes. Et ils éclosent au printemps. De l'œuf sort une larve et la larve ressemble à un adulte en miniature. Voilà. Alors, sauf qu'il n'y a pas d'organes génitaux. Sabre et tout ça, et il n'y a pas d'aile non plus. Mais sinon, c'est un adulte en miniature. Et il va grandir par mues successives, de 5 à 10, selon les espèces, en moyenne. Et puis après, il va devenir adulte au mois en été. En général, ça commence au mois de juillet. Et l'adulte, il vit 3 mois, jusqu'en septembre. Et après, au premier frimas, aux premières gelées, les adultes meurent et les œufs perpétuent le cycle, quoi. Voilà, ça c'est le schéma de base. Bon, après il y a des cas particuliers, il y a le grillon champêtre qu'on a entendu, lui il chante dès le printemps, parce que les larves passent, ce sont les larves qui passent l'hiver, et du coup la dernière mue a lieu au printemps et les adultes peuvent entonner leur chant au mois de mars, quoi. Mais c'est un cas particulier.
Et qu'est-ce qu'il leur faut comme milieu alors pour être bien?
Alors c'est plutôt des espèces de milieu ouvert. Et c'est globalement plutôt des espèces dites thermophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment bien un peu l'ensoleillement, quoi. Voilà, donc c'est des espèces qu'on va trouver dans des prairies, dans le bocage, dans des friches, au niveau des lisières de chemins forestiers, en Bretagne, dans des landes aussi, il y a pas mal d'espèces très particulières. voilà, plus que dans la pénombre d'une forêt de résineux ou même dans une forêt de feuillus. Voilà. Et les espèces qui sont arboricoles sont plutôt dans les arbres de lisière ou alors à la canopée, quoi. Voilà, ah ouais. C'est-à-dire au sommet des arbres. Mais là, ils sont un peu plus compliqués à les chercher.
Et en termes d'humidité, ils ont besoin de quelque chose en particulier?
Ça dépend là aussi des espèces. Ah ouais. Il y a des espèces vraiment de pelouse xérique, c'est-à-dire très sèche, littorale. Le dipode qui a un criquet aux ailes bleues qu'on peut voir de temps en temps quand on se balade au bord de la mer en Bretagne. Et en tout cas dans le Finistère, c'est au bord de la mer, il fait trop froid à l'intérieur. Et puis il y a aussi des espèces qui sont typiques des milieux humides avec une inondation permanente, voilà, un criquet ensanglanté, le conocéphale des roseaux, une sauterelle et un criquet qu'on trouve que dans des prairies humides par exemple, plus le cortège des espèces de landes et de tourbières où eux ils ont besoin du froid, quoi.
Qu'est-ce qu'ils mangent alors ces animaux?
Alors, la courtilière, elle va se nourrir elle est omnivore en fait, elle va se nourrir de racines, de bulbes, de choses comme ça, mais aussi beaucoup d'insectes, de larves d'insectes qu'elle trouve dans le sol. Les criquets sont essentiellement phytophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de plantes et exclusivement d'herbes, voilà, de poacées, pas de plantes à fleurs, enfin de plantes à fleurs. Les poissées ont des fleurs, mais enfin voilà, plutôt les herbes et pas les marguerites et les pissenlits, quoi. Voilà. Et puis les sauterelles. Là, il y a toute la gamme en fait, sauterelles et grillons. Globalement, il y a des phytophages purs et jusqu'aux carnivores purs. On parlait de la grande sauterelle verte. C'était peut-être avant l'émission d'ailleurs, on en parlait un peu.
Et du coup, on l'a entendu tout à l'heure.
Ah oui, voilà, oui, 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 oui. Ouais. Et donc elle est quasiment exclusivement carnivore, quoi. Voilà. Tandis que la majorité des sauterelles et des grillons ont un régime omnivore. C'est le cas de notre grillon champêtre.
Ça leur permet peut-être de mieux résister aussi. Ceux qui sont omnivores, en tout cas, ils peuvent s'adapter plus facilement, peut-être.
Bah, c'est vrai que cette année, ça s'est vu, parce que il y a eu une période un printemps sec, et voilà, du coup, il y a eu un impact sur les graminées, sur les herbes, sur les fleurs, et absence d'eau. Enfin bon, voilà, c'est compliqué à isoler les causes, mais ceci étant dit, clairement, c'est une année où il n'y a pas eu beaucoup de criquets par rapport aux années précédentes. Alors que les sauterelles, les grillons, on a continué à en voir à peu près dans les mêmes densités que les années précédentes. Mais les criquets, des fois, on arrivait dans des prairies où normalement ça saute de partout, et là, il n'y avait rien qui sautait, quoi.
Et quels sont leurs prédateurs?
Alors, les prédateurs, ben, c'est tous les insectivores. Voilà, les oiseaux, les mammifères insectivores, d'autres insectes, les araignées aussi dans les prairies, les grosses araignées attrapent des petits criquets dans leur toile. Et puis ben, mention spéciale quand même aux parasitoïdes. Ah. Alors notamment chez les mouches, il y a deux groupes qu'on appelle les conops et les taquinaires, et qui eux sont spécialisés dans la prédation des orthoptères. Donc en fait, ils les attrapent même pas, ils arrivent dessus, ils pondent dessus, et l'œuf, l'orthoptère continue sa vie, le criquet continue sa vie, mais l'œuf éclot et l'asticot entre à l'intérieur et mange le criquet de l'intérieur. Et ouais,
c'est assez brutal.
Non, mais c'est c'est bah les parasites, ça régule bien les populations d'insectes en général. Et voilà, il y a des guêpes aussi qui sont spécialisées là, mais qui elles les paralysent en fait, elles les piquent. Elles atteignent juste le système nerveux pour les paralyser, mais elles ne les tuent pas. Et du coup après elle va les enterrer avec un œuf et l'orthoptère est encore vivant quand l'œuf éclot. Je suis désolé, hein, mais
c'est
bon, c'est la.
Voilà.
C'est l'heure de midi, hein.
Oui, ouais.
C'est ça. C'est le moment. Hein. Moi, je voulais savoir, les orthoptères vivent comment? Plutôt en groupe ou c'est vraiment des animaux qui sont un petit peu isolés?
Ça dépend là encore des espèces. Majoritairement, les criquets sont assez grégaires. Voilà, quand on trouve les zones où ils chantent, où ils stridulent, ben on voit qu'il y a des places de chant, qu'il y a plusieurs mâles qui peuvent se jauger. C'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut observer, quoi. Ouais. Les femelles qui se déplacent de mâle à mâle. Enfin bon, voilà. Et voilà. Chez les sauterelles, il y a un peu de tout. Il y a des espèces qui ont de toute façon des densités moins importantes que d'autres, mais globalement on peut dire quand même que ce sont des espèces qui sont grégaires, quoi.
Alors on a parlé un petit peu des biocides, de leur effet bien sûr sur ces insectes. Ils vont comment, les orthoptères, globalement?
Alors en général, pour répondre à cette question-là, on regarde un petit peu les listes rouges, mais pour le coup, pour les orthoptères en Bretagne en tout cas, on n'a pas de liste rouge, on n'a qu'une liste rouge européenne et une vieille liste rouge à l'échelle nationale. Bon voilà, donc on n'a pas d'éléments comme ça factuels. Alors on est en train de faire le travail, donc un travail d'atlas, où on va jauger un peu la répartition de chacune des 66 espèces en Bretagne, de savoir quel milieu elles utilisent, et puis de savoir aussi d'évaluer leur degré de patrimonialité, on va dire. Et donc ce travail est en cours. C'est compliqué à répondre de façon définitive. Ceci étant dit, on sait que c'est des espèces qui prennent de plein fouet la chimie dans l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, l'artificialisation des paysages et des sols. C'est les mêmes mots que les autres compartiments du vivant, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi le phénomène du réchauffement climatique, voilà, qui rebat aussi toutes les cartes.
Et alors comment ça a un impact?
En gros, en Bretagne, quand on s'intéresse aux orthoptères en particulier, aux insectes en général, il y a deux grands critères qui permettent de comprendre la répartition des espèces, c'est le climat et l'occupation des sols, quoi. Voilà. Alors donc le climat étant en train d'être bouleversé et de se réchauffer, on peut imaginer que les espèces qui font partie des cortèges des espèces plutôt du centre Bretagne, dans des landes, dans des tourbières, eux ça va être très compliqué parce que c'est des milieux qui sont optimaux dans les milieux, enfin en termes de climat froid, quoi. Voilà, donc le climat se réchauffant, ça c'est des espèces qui risquent petit à petit de monter, de rester que dans les endroits les plus hauts en altitude en Bretagne, et puis peut-être jusqu'à la disparition complète, on sait ça.
Alors ils brûlent dans les incendies.
En plus, il y a l'incendie, ouais, ça, faut voir aussi quelles conséquences ça va avoir l'année prochaine, effectivement, si on parle des monts d'arrêt. Et puis donc le grillon des marais qu'on entendait en début de démission est concerné par cette possible raréfaction de la surface de son aire, enfin diminution plutôt de la surface de son aire. Et puis il y a des espèces qui vont bien vivre finalement le réchauffement a priori, parce que c'est des espèces plutôt d'origine méridionale et qui vont en profiter pour coloniser le Finistère Nord, et c'est déjà le cas en fait. Il y a l'année dernière par exemple a été trouvé en fond de rade de Brest, du côté de Logona, dans le pré salé, au milieu des salicornes, là, un criquet, le criquet vert émeraudine, très joli criquet et un bon voilier, dont les populations.
Comment ça, un bon voilier?
Il vole, quoi, il se déplace, il migre.
Ok.
Voilà. Et un bon volateur, voilà, pour être plus juste.
Okay.
Et en fait, qui provenait de. Certainement, dont les populations les plus proches étaient en baie d'Audierne. Voilà, et là il vient d'arriver, c'est une arrivée récente, et on l'a retrouvé cette année. Donc c'est certainement lié au réchauffement climatique. Voilà, donc il y a des espèces qui vont pâtir du réchauffement climatique, il y en a d'autres qui vont en profiter. Et il y a 100 ans, par exemple, la grande sauterelle verte était super rare en Bretagne, quoi. Maintenant, on en a partout. C'est le même principe, je pense.
Les cigales, ça fait pas partie de cette famille, hein.
Non, c'est à part. Mais ça stridule, ouais, aussi, et plutôt pas,
ouais,
mal.
Ouais, c'est pour
mais,
ça.
Mais ouais, c'est un autre groupe d'insectes.
Et elles arrivent, paraît-il.
Ben oui, mais c'est pas étonnant. Ouais. Pas étonnant.
Et donc Bretagne Vivante s'intéresse particulièrement aux insectes cette année, c'est ça? Vous faites un atlas? Non,
c'est... Bah, en fait, c'est pas cette année. Hein. On a lancé une série d'atlas depuis 2010 de mémoire, là. Et donc, on a commencé avec celui des papillons qu'on a publié, là, en 2017. Là, on est en train de rédiger celui sur les odonates, donc les libellules. Et le suivant, ça sera les orthoptères. Voilà, donc c'est un travail un peu de longue haleine, quoi.
Oui, parce qu'il y a combien de personnes qui travaillent là-dessus pour les orthoptères, là, par exemple?
En fait, il y a des. On peut imaginer qu'on est 4 ou 5 salariés à l'échelle de Bretagne Vivante qui s'intéressent à ces bêtes-là. Et puis il y a une trentaine de bénévoles répartis sur le territoire, très actifs, qui font du terrain et des prospections, quoi. Voilà, on doit être à peu près autour de ça.
Qui font des observations régulières, en fait, c'est
régulières,
ça.
Régulières, et qui saisissent leurs données sur le portail Faune Bretagne, notamment. Donc tout le monde peut le faire, même si on sait pas reconnaître les orthoptères, mais on sait reconnaître le grillon qui chante. Et ben, faut saisir la donnée sur Faune Bretagne.
C'est ce que j'allais demander. C'est participatif un peu, quoi.
Ouais. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Faut juste être sûr de ce qu'on saisit, quoi. Oui. Évitez de mettre des erreurs, s'il vous plaît.
C'est ça. Bon, eh bien, on pourra réécouter en tout cas cette émission, les autres émissions réalisées avec Bretagne Vivante sur le site internet de Radio Évasion et puis d'autres stridulations, promis. À bientôt, Stéphane.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.